Voilà, bonjour, Guten Tag. Ich werde auf Französisch predigen. Es wird besser für alle sein. Merci à Google. Voilà, on peut mettre la petite image que j'ai proposée. Il n'y a pas besoin de parler français ou allemand pour comprendre de quoi il s'agit. Probablement tous les conducteurs ont déjà croisé ce panneau-là quelque part. Ce panneau veut simplement dire « attention, virage ». Alors quand on croise ce genre de panneau, on a tendance à lever le pied, à donner un coup de frein, et puis peut-être à redoubler de vigilance. Ce panneau nous dit bien que la route va tourner, mais on ne sait pas tellement ce qui nous attend. Quand on croise ce panneau, on sait que dans 150 mètres, ça va tourner. Mais ce panneau ne nous dit pas l'angle du virage à négocier. La semaine passée, nous avons parlé de l'ascension de Jésus. Et puis juste avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En disant cela, c'est comme si Jésus donnait à ses disciples ce panneau « Attention, virage !» Les disciples savent donc que quelque chose va se passer, mais ils ne savent pas exactement quoi, ni exactement quand. Et la semaine passée, j'ai apprécié discuter avec un frère de l'Église qui m'a posé cette question, mais dans ce temps d'attente, qu'est-ce que devaient penser les disciples? À quoi ces disciples devaient reconnaître finalement cette Pentecôte? Effectivement, c'est toujours intéressant de se demander, mais dans ce temps d'attente, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imaginaient finalement. Ce qui est clair, c'est que le seul ordre qu'ils ont reçu, c'est de rester à Jérusalem. Décidément, Jésus aurait pu leur laisser un peu plus d'informations. Ça aurait été sympathique. Finalement, on ne peut que spéculer sur les émotions, sur le ressenti des disciples. Mais permettez-moi d'affirmer que ce qu'ils ont vécu à la Pentecôte n'a laissé aucun doute possible. Aucun doute possible sur la réalité de ce qu'ils allaient vivre. Et je vous propose de lire la parole de Dieu en acte 2, les versets 1 à 13. Acte 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous que chacun les entend. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres « Ces gens ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, c'est pas la vallée de Joux, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine et de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont remplis de vin doux. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Quelle expérience incroyable ces disciples ont vécu là. C'est tellement extraordinaire qu'on pourrait croire que c'est de la fiction, que tout est exagéré. Peut-être que les disciples n'étaient en fait que des fanatiques prêts à tout pour donner raison à Jésus. La mise en scène est belle, le canular est bien monté. Ce qu'il y a de plus fou, c'est que ce canular dure encore jusqu'à maintenant, si on se dit que l'Église est le fruit de la Pentecôte. Certains pensent ainsi, malheureusement. Je ne suis pas de ceux-là, je vous rassure. Je vous l'ai dit et je l'affirme, ce qui a été vécu à la Pentecôte ne laisse aucun doute possible. Ce jour où le Saint-Esprit est venu sur les disciples est un véritable tournant dans l'histoire, un tournant radical pour deux raisons. La première, parce que ce virage, ce panneau « Attention » était annoncé dans l'Ancien Testament. Le prophète Joël a dit quelques siècles avant la venue de Jésus « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Alors pour éviter de prendre trop de temps à la prédication, je n'ai cité que le prophète Joël, mais il y a plusieurs prophètes qui annoncent cet événement. La deuxième raison de pourquoi c'est un tournant radical, c'est que la suite du livre des Actes et les aperçus des épîtres du Nouveau Testament nous montrent que le monde a profondément changé depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, il faut attendre à peu près 300 ans pour que le christianisme, la société, pour que le christianisme devienne le socle de la société occidentale. Ce socle va durer 16 siècles, de Constantin jusqu'aux Lumières. Pendant 16 siècles, la foi chrétienne est le socle de la société. Parfois pour le meilleur et pour le pire. L'histoire nous le montre aussi. Mais pour la Pentecôte, il y a un avant et il y a un après. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est de nous pencher surtout sur ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qu'il y a avant cet événement ? Et à ce moment-là, je peux bien vous faire une confidence. C'est la première fois que je prêche sur un texte du Nouveau Testament et que j'ai plus lu l'Ancien Testament que le Nouveau. Première fois que ça m'arrive. Mais bon, revenons d'abord à nos disciples. Nous les retrouvons comme Jésus les avait laissés après l'ascension. Les disciples sont rassemblés au même endroit. Peut-être même qu'ils se préparaient à vivre cette fête de Pentecôte comme tant d'autres à Jérusalem. Dans le calendrier juif, cette fête est appelée Shavuot. Elle est aussi appelée fête des semaines, ou bien fête des moissons. Et à l'occasion de cette fête, plusieurs pèlerins venaient à Jérusalem pour célébrer ce moment important. Cette fête, c'est l'une des fêtes juives instaurées en Lévitique, Lévitique 23, qui nous dit « Depuis ce lendemain du sabbat, jusqu'au jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. » Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Donc dans cette fête, on voit qu'il y a à la fois la fête des moissons où on donne les premières récoltes à Dieu et puis on parle aussi de semaines, c'est pour ça qu'on appelle aussi la fête des semaines. Mais cette fête dans le Lévitique avait pour but d'abord de témoigner la reconnaissance de Dieu pour les récoltes. C'était le but premier de cette fête dans le Lévitique. Et puis au cours des siècles, cette fête a changé petit à petit de signification, d'orientation. On y a ajouté des choses. Alors je vous passe volontiers l'historique de cette fête de Shavuot. Mais toujours est-il qu'à l'époque de la rédaction du livre des Actes, cette fête rappelait au peuple le souvenir du don de la loi au Sinaï. Les pèlerins qui étaient à Jérusalem à ce moment-là de la Pentecôte venaient pour se remémorer ce moment fondateur de leur histoire. Ce moment où Dieu a fait alliance avec eux. Alors ces pèlerins étaient certainement pétris des textes de l'Ancien Testament, certainement ceux de l'Exode et du Deutéronome où on voit que Dieu donne sa loi à Moïse. Permettez-moi de croire que l'auteur du livre des Actes, Luc, savait cela parfaitement. Et j'ose croire que son récit de la Pentecôte en Actes 2 fait référence au don de la loi à Moïse au Sinaï. Luc nous le dit bien, tous les disciples étaient rassemblés au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Des langues qui semblaient de feu apparurent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Ces ingrédients sont bien le signe que Dieu est en train de se manifester dans l'histoire. Si après l'ascension, les disciples n'en savaient pas beaucoup sur le quand et le comment de l'envoi du Saint-Esprit, ceux qui vivent ici ne fait aucun doute. Dieu est en train d'intervenir dans l'histoire. Dans ce qu'ils vivent, dans l'expérience qu'ils vivent, on retrouve les mêmes ingrédients que lorsque Moïse a reçu la loi au Sinaï. Au Sinaï, Moïse a reçu la loi accompagnée de feu, de vent et de l'éclat de la voix divine. On retrouve les mêmes ingrédients. Tout comme Moïse est monté sur la montagne pour redescendre avec la loi écrite sur les tables de pierre, Jésus est monté au ciel pour redescendre par le Saint-Esprit qui va inscrire sa loi dans les cœurs. Ainsi, le récit d'Actes 2 accomplit cette promesse de Jérémie. « Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. » La Pentecôte est intimement liée au ministère de Christ. Ce n'est pas une action isolée du Saint-Esprit ou une lubie que les disciples auraient développée. La semaine dernière, pendant l'ascension, nous avons vu que Christ était monté au ciel pour régner. Désormais, c'est le Saint-Esprit dans le cœur des disciples qui est placé au devant de la scène. L'ascension de Christ a permis cette effusion de l'Esprit. Et ce changement de cap est ancré dans l'Ancien Testament. La Pentecôte marque publiquement la transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La venue du Saint-Esprit atteste la pleine suffisance du sacrifice de Christ pour cette Nouvelle Alliance. Il n'y a rien besoin d'ajouter. Si dans l'Ancienne Alliance, désormais, signe de la loi, désormais, c'est le régime de la grâce. Nous n'avons plus besoin de donner des offrandes à Dieu pour avoir sa faveur, pour le pardon des péchés. Nous n'avons plus besoin d'avoir un prêtre ou un pasteur qui vient sacrifier un animal pour expier les péchés du peuple. Et là, j'en suis content. Désormais, c'est l'accès à la grâce pour chacun. Et l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que c'est vous-même qui êtes le temple du Saint-Esprit ? Que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Non seulement la Pentecôte reprend les ingrédients de ce qui a été vécu au Sinaï, mais elle dépasse aussi cette alliance. Il y a un changement de régime, comme une inversion. Au Sinaï, c'est seulement Moïse qui a vécu cette rencontre avec Dieu, qui reçoit la loi comme intermédiaire. À la Pentecôte, ce sont l'ensemble des disciples qui deviennent les canaux de la nouvelle alliance. Et on voit que cette nouvelle alliance se diffuse dans le peuple. 3000 conversions après une prédication. J'espère une fois en arriver là. Pour la gloire de Dieu. L'accès à Dieu est désormais offert à chaque personne qui croit en ce que Jésus-Christ a accompli. Et ce que les disciples ont vécu à cette Pentecôte, dans cette pièce où ils étaient rassemblés, a attiré l'œil, ou plutôt l'ouïe, de ces nombreux pèlerins à Jérusalem. À ce bruit, ils accoururent en foule. Le Saint-Esprit n'est pas venu discrètement. Il y a eu un grand bruit, et il y avait de nombreux témoins. Voilà encore ce qui me permet de réfuter que ce n'était qu'une lubie. Si le bruit du vent a alerté les foules, sur chacun des disciples s'est déposée une langue ressemblant à du feu. Comme en français, le mot grec utilisé pour langue est ambigu. Il peut désigner aussi bien l'organe que la langue parlée. Et Luc utilise cette ambiguïté. Chacun des disciples est touché par ce miracle, tous de la même manière. Chacun reçoit une langue comme du feu au-dessus de sa tête. Mais le fait que chacun reçoive cette langue donne aussi à chacun une identité particulière. Chacun est choisi individuellement pour porter le message en donné. Plus loin, selon les dons qui lui est donné. Selon les dons qui lui sont donnés. Et on a vu la liste que Luc a donnée sur l'origine de tous ces pèlerins. Je ne vais pas la refaire. Mais on voit que le territoire couvert est vaste. Mais il dit aussi que tous sont juifs, de naissance ou par conversion. Luc prend soin de nous donner cette liste parce qu'il veut nous montrer quelque chose d'important. D'une part, il veut nous montrer la mondialisation de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance n'est pas réservée à un territoire exclusif, mais elle s'ouvre sur les nations. Mais il veut aussi nous montrer la primauté pour le peuple juif d'avoir accès à cette nouvelle. Chacun de ces pèlerins entend des Galiléens parler en leur langue. Fait assez surprenant pour des Galiléens. C'est comme si un Inuit venait vous parler suisse-allemand. C'est quelque chose d'improbable. C'est un événement étonnant. Pourtant, les ingrédients d'une manifestation divine sont là. Il n'y a plus lieu de douter que Dieu est en train d'intervenir dans l'histoire. Et peut-être que l'étonnement manifesté par ces pèlerins est peut-être dû à ce qui est en train de se passer à la Pentecôte va plus loin que ce qui a été vécu au Sinaï. Ces pèlerins à Jérusalem étaient tournés vers le passé, vers l'alliance faite avec Moïse, et certains n'ont pas réalisé que la nouvelle alliance était en train de prendre le dessus à ce moment-là. Et l'étonnement ne s'arrête pas là pour certains d'entre eux. Certains font preuve d'un rationalisme, oui. Où ils disent finalement ce n'est que de la fiction, ses disciples sont remplis de vin doux. C'est facile de botter en touche de cette manière-là. Notre lecture s'est arrêtée là. Mais on voit dans la suite du chapitre que Pierre va prendre la parole, qui va donner une des meilleures prédications de l'histoire de l'humanité, Il va partir de l'Ancien Testament, il va expliquer aux foules le message de l'Évangile. Et ce jour-là, 3000 personnes acceptèrent ce message et se firent baptiser. La Pentecôte, je le répète, n'est pas une lubie de fanatiques. La Pentecôte, c'est Dieu qui vient donner un tournant à l'histoire de l'humanité. Dieu qui vient inaugurer une nouvelle ère. L'ère de la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Alors nous sommes encore aujourd'hui dans l'élan de ce virage qui a été négocié à la Pentecôte. Et le prochain virage que nous aurons à négocier, nous n'aurons pas grand-chose à faire, puisque ce prochain virage sera le retour de Christ. Nous sommes dans cette attente-là. Et ce matin, je pourrais vous placer à nouveau ce panneau en disant « Mais le prochain virage, c'est le retour de Christ, soyons prêts. » Ce récit de la Pentecôte, ce tournant qui a été vécu, peut amener du sens là où il n'y en a pas. Comme cette flèche indique une direction, cette flèche sur ce panneau. Notre société a cette fâcheuse tendance actuellement à annuler tout ce qui vient du passé. On appelle cancel culture. Cette fâcheuse tendance à tout annuler laisse des générations sans repère. Et la Pentecôte est ce panneau indicateur nécessaire à notre société. Dieu agit encore aujourd'hui, le temps de l'Esprit n'est pas fini. La nouvelle alliance n'est pas terminée. J'ose dire qu'il y a encore des places. Elle est accessible gratuitement et complètement à ceux qui croient. Mais notre société a besoin de voir ce panneau « Attention, virage ». Et c'est peut-être à nous, en tant qu'individus, en tant qu'Église, de le rendre visible pour ceux qui nous entourent. Quand on voit ce panneau-là, si on n'y prête pas attention, on fonce droit dans le décor. Beaucoup de gens ne le voient pas. Alors que nous puissions être, comme l'apôtre Pierre, il y a quelques années, ces disciples qui rassemblent les peuples dispersés au sein de la Nouvelle Alliance, que nous puissions brandir ce panneau en disant « Mais attention, il y a un virage qui a été négocié et vous pouvez encore le prendre maintenant. » Ce virage, c'est celui du salut par Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement l'œuvre d'individus, c'est l'œuvre de l'Église. C'est là la mission de l'Église, de placer ces panneaux dans la société. Les disciples ont reçu un seul esprit. Ce n'est pas à chacun d'eux, de manière dispersée, d'aller brandir ces panneaux. Un seul esprit. Il y a une unité à avoir. Et j'ose croire que si nous voulons être pertinents dans ce message, si nous voulons être cohérents avec la Pentecôte, il convient que nous soyons unis aussi les uns aux autres. Et peut-être que cela passe par la réconciliation. À la Pentecôte, cet éclair, Dieu a choisi de réconcilier le monde avec lui. C'est là aussi notre mandat en tant qu'Église. Mais peut-être qu'à l'interne de nos relations, nous avons besoin de vivre de la réconciliation. Peut-être que nous avons aussi besoin de nous réconcilier avec Dieu. Peut-être que Dieu se fait sentir lointain pour certaines personnes. Alors que nous nous souvenons de cette fête de Pentecôte, de cet esprit qui a été donné, ne laissons pas l'occasion passer de nous réconcilier. Pour que nous soyons à notre tour agents de réconciliation. La semaine passée, j'ai reçu un message WhatsApp d'Anne France qui me parlait d'un mouvement de prière qui avait lieu pendant ce week-end de Pentecôte pour Israël. Ce mouvement de prière regroupe 130 millions d'intercesseurs. J'ai relu deux fois le flyer et je n'ai pas l'impression qu'ils ont fait faute de frappe. Beaucoup de personnes prient actuellement pour Israël, pour que ce peuple se réconcilie avec Dieu. Mais je crois que cette invitation de réconciliation nous est aussi adressée à nous. J'aimerais conclure par la prière. Notre Dieu, alors que nous nous souvenons que tu as envoyé ton esprit à la Pentecôte, nous reconnaissons que nous sommes bénéficiaires encore de cette œuvre. Ton esprit agit encore en nous. Seigneur, nous voyons que le monde, que ton peuple Israël a besoin de toi. Seigneur, nous te prions qu'une prise de conscience pour ton peuple, pour notre monde, pour nos dirigeants politiques, qu'une prise de conscience ait lieu. Seigneur, tu peux toucher les cœurs et tu n'es dépassé par rien. Seigneur, nous te prions aussi que dans nos vies personnelles, nous ne laissions pas cette Pentecôte de côté, mais que nous puissions pleinement la vivre en nous souvenant que tu nous as réconciliés avec toi et qu'à notre tour, nous pouvons nous réconcilier nous-mêmes avec toi, mais aussi avec les autres. Seigneur, merci parce que ton esprit, tu le donnes gratuitement. Cet esprit qui inaugure cette nouvelle alliance et il reste encore des places. Cette nouvelle alliance est gratuite. Oui, Seigneur, si nous reconnaissons notre péché, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, nous reconnaissons que c'est toi qui as payé le prix qu'il fallait. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci pour ton esprit qui nous permet d'être des témoins efficaces de toi aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.